Combes. Les enquêtes de François Lecamp, détective aveugle. La bague à trois chatons. Histoire du début de François Lecamp comme détective aveugle. Chapitre 1er. C'est moi, François Lecamp, qui raconte. Ayant été blessé aux yeux en 1916, je fis ma rééducation à Paris, mais je ne découvris pas tout de suite à quoi je pouvais encore être bon. Avant la guerre, j'étais ciseleur, j'aimais les fins outils. Les métiers de brossier, chaisier, vannier ne me disaient rien. Je me mariai en 1917. Ma femme était couturière, elle avait un petit atelier et elle gagnait assez pour nous deux, mais cette position dépendante ne pouvait me convenir. J'allais chez un tourneur, puis chez les Houston Thompson pour faire du bobinage électrique. À la maison, je fabriquais des petites bricoles en bois, des étagères, des meubles de poupées. Ma femme les vendait facilement à ses clientes. Malheureusement, Lucie tomba malade et le docteur déclara que la couture, l'atelier, l'air de Paris ne lui valaient rien. La poitrine était menacée. Il fallait partir tout de suite pour la province. Ma femme avait des amis qui tiennent un hôtel dans une petite ville salubre, bien abritée par une colline et aérée par le cours d'une rivière. Pas de poussière, pas de vent et les ressources de la campagne toute proche. On déménagea donc. Les amis Marceau nous avaient trouvé une petite maison d'un rez-de-chaussée et mansarde avec une cour devant de 5 pas de large et un jardin derrière, 3 arbres fruitiers, un coin pour les poules et les lapins. À ce moment-là, je n'avais que ma pension de 1 200 francs, mais mon ancien patron m'en faisait autant, en attendant que le gouvernement se décide à nous augmenter. Avec un peu de couture que faisait ma femme et mes bricoles qui se vendaient presque mieux qu'à Paris, nous pouvions vivre. Dès la première semaine, Lucie fut beaucoup en réquisition à l'hôtel du Veau Bleu, où on était à court de service. Et je ne vous cacherai pas que je m'ennuyais ferme pendant les heures où ma femme était absente. Je lui dissimulais mon cafard tant que je pouvais. En 2 ans, je ne m'étais pas encore habitué à la cécité et j'avais beau faire, remplir un programme tous les jours, lire du braille, chapuiser du bois, nourrir les poules et les lapins, je traînais mon existence et Lucie s'en apercevait bien. Peu à peu, elle n'alla plus du tout chez Madame Marceau, elle restait avec moi, mais mon cafard me tenait solidement. À vrai dire, rien ne m'intéressait. C'est la bague à trois chatons qui m'a sauvée, car je ne sais pas où j'allais, et Lucie, bien sûr, n'était pas heureuse. Un matin, vers 10 heures, j'étais dans la salle qui nous sert de cuisine et de salle à manger, et où j'ai mon établi et mes outils. Cette salle donne sur la cour. La porte est toujours ouverte quand il fait beau, et les visiteurs, arrivant de la rue, traversent la petite cour, puis entrent sans cérémonie dans la salle. Madame Chaudron était là depuis un bon quart d'heure avec sa petite fille. Elle me commandait une cassette avec des cases pour la monnaie. Elle tient une petite mercerie en face de chez nous. Tout à coup, la fillette, qui pleurnichait depuis un bon moment, se mit à pleurer plus fort. « Qu'a donc cet enfant ? » demandai-je impatienté. « Donnez-lui ce qu'elle demande. »« À rouler ! À rouler ! » faisait-elle. « Ce n'est rien, c'est cette boucle qu'elle a trouvée et que je lui ai pendue au cou par un cordon. Oui, voilà le cordon des fées, la boucle a roulé. Ça n'a aucune importance, » ajouta Madame Chaudron. « Sans doute que la boucle aura roulé un peu loin, peut-être même sous la cuisinière, » dit Lucie. « Je la retrouverai en balayant. Pleure pas comme ça, mignonne !» Mais la mignonne hurlait tellement que sa mère l'emmena pour ne pas nous déranger davantage. « Tiens !» fit ma femme 5 minutes plus tard. « Je la vois, cette boucle, là, derrière le pied de la cuisinière, dans mon petit tas de bois. » Je l'entendis qui écartait les morceaux de bois, puis elle dit « Ce n'est pas une boucle, c'est une vieille monture de bague. » « Fais voir, lui dis-je. » Elle me mit dans la main un anneau, très pesant pour sa grosseur, car il était petit, fait pour un mince doigt de femme. Je le tâtai soigneusement et m'aperçus qu'il portait 3 chatons vides, disposés en quart de cercle. Avec le bout de l'ongle, je constatai que les griffes étaient très fines, très aiguës, mais écartées. on avait fait sortir les pierres assez maladroitement. Une des griffes était cassée. Le chaton du milieu n'était pas à jour, mais, au contraire, le fond était plein. Les deux autres étaient percés tout à jour, deux trous. « De quelle couleur est cette bague ? » demandai-je à Lucie. « Elle me paraît très lourde. » « Elle n'est pas en or, dit Lucie. Elle est d'un métal gris clair. Du plomb, sans doute. » « Non, dis-je, on n'aurait jamais pu faire en plomb les griffes de sertissage si fines et si dures. Voilà ce que m'apprennent mes doigts et mon bon sens réunis. Donc le métal gris ne peut être que du platine. Donc la bague a de la valeur. Où cette mignonne qui hurle si bien l'a-t-elle trouvée ?»« Je vais le demander à Madame Chaudron, dit Lucie avec empressement. » Pas tout de suite. Une bague de platine, avec trois chatons vidés, qu'on a forcés, ça a l'air d'une histoire pas ordinaire. « Oh, crois-tu ? » fit ma femme. « En tout cas, ça m'intéresse. » À mon grand étonnement, Lucie me sauta au cou. « T'entendre dire enfin que quelque chose t'intéresse. » Je me rendis compte alors que mon cafard pesait aussi lourd sur ma femme que sur moi. « Que veux-tu que je fasse ? » demanda-t-elle. « D'abord, n'en parle à personne. Ensuite, tâche de m'amener la petite. Je voudrais la questionner moi-même. »« J'ai un petit collier bleu, je le lui donnerai. Je vais la chercher tout de suite. » 5 minutes plus tard, la petite Mariette Chaudron arrivait, convoyée par ma femme. Cette enfant m'aimait assez, car je la prenais souvent avec moi pour visiter les poules et les lapins. Le petit collier la ravit tellement que j'eus de la peine à la faire causer de la bague. Je finis tout de même par savoir qu'elle l'avait trouvée dans une petite ruelle de pavés et d'herbes qui sépare l'hôtel du Veau-Bleu de la maisonnette de Madame Chaudron. Mariette a la permission d'y jouer parce que c'est un cul-de-sac où il ne passe jamais de voiture. « Écoute, dis-je à Lucie, j'ai envie de me rendre compte. Conduis-moi dans cette ruelle et prenons la petite avec nous. » Dans nos promenades, je me laissais guider sans m'intéresser à rien, ce qui n'était vraiment pas intelligent. Lucie m'expliqua alors la disposition des maisons en face de la nôtre. Tout à fait en face, la petite boutique de Madame Chaudron, et je n'avais jamais su qu'une ruelle pavée et fermée la séparait de l'hôtel du Veau-Bleu. En quelques pas, nous nous trouvâmes dans cette ruelle dont je sentis les pavés et l'herbe sous mes pieds. Je la parcourus d'un bout à l'autre en faisant une trentaine de pas. Lucie, à mes questions, répondit que la maisonnette basse de Madame Chaudron n'avait pas de fenêtre donnant sur la ruelle. De l'autre côté, il y avait la façade de l'hôtel, haute de 3 étages, avec des fenêtres. « Puisque la ruelle est fermée en cul-de-sac, on ne la parcourt pas, » dis-je en réfléchissant. Il est peu probable que la bague ait été perdue ici par un passant, puisqu'il n'y a pas de passant. Elle n'est pas tombée du ciel ou d'un avion. Donc, elle doit être tombée d'une fenêtre. Il n'y a que les fenêtres de l'hôtel. Toi, Lucie, qui connais la disposition intérieure de l'hôtel, connais-tu les chambres qui ont une fenêtre sur la ruelle ? Cette façade est celle de l'escalier, répondit ma femme. Une des fenêtres à chaque étage éclaire l'escalier. Ce sont des fenêtres qu'on n'ouvre pas à cause de la rampe qui passe devant. Sur chaque palier, il y a une chambre qui a une fenêtre sur la ruelle et une autre qui donne derrière sur les écuries. Ces chambres sont, au rez-de-chaussée, le bureau du patron, au premier, la chambre à coucher des patrons, au second, une chambre de voyageurs, au troisième, la chambre des bonnes qui est mansardée et n'a qu'une lucarne sur la ruelle. Supposons, dis-je, que la bague ait été lancée d'une fenêtre dans la ruelle. Ce n'est pas le patron, ni Madame Marceau, qui auraient fait ça. Et même, par mésaventure, ils auraient perdu une bague de platine, tu le saurais. D'ailleurs, les chatons vides indiquent autre chose. Donc, ni le patron, ni la patronne, ni les bonnes par leur lucarne. Reste la chambre de voyageurs. Saurais-tu peut-être qui a logé récemment dans cette chambre ? Non, tu sais que je ne vais plus chez Madame Marceau que de 7 en 14, mais je peux m'informer. D'ailleurs, mon pauvre ami, la bague pouvait être là depuis des années, entre 2 pavés ou sous une touffe d'herbe. Quoique tout de même, elle a l'air neuve. Le platine est inaltérable, dis-je. J'aurai à l'examiner avec tes yeux. Nous n'avons pas encore inspecté l'intérieur. Moi, j'y ai regardé, dit Lucie. Il y a quelque chose de gravé, très fin, en dedans de l'anneau. Et tu ne me le disais pas, et tu prétends être mes yeux, m'écriai-je assez âprement, car j'étais encore dans la phase où un aveugle s'irrite contre les voyants à leur moindre faute. Ne me gronde pas, c'est réparable, fit Lucie. Sans perdre une seconde, et comme d'ailleurs la ruelle n'avait plus rien à nous apprendre, la petite Mariette étant incapable de désigner l'endroit exact où elle avait trouvé sa précieuse boucle, nous rentrâmes. Dans mes outils de ciseleur qui me servaient encore, il y avait une loupe. Celle-ci, par exemple, n'avait plus d'intérêt pour moi, mais Lucie s'en servit pour lire à l'intérieur de l'anneau, d'un côté des trois chatons, les initiales WT, et de l'autre côté une date, 1888. « Tu es bien sûr du W ?» demandai-je. « C'est important. Cela m'apprend, joint à d'autres indices, que la bague faite pour un doigt très mince a été offerte comme bague de fiançailles à une jeune Anglaise dont le fiancé habitait les Indes. « Tiens, voilà que tu fais concurrence à Sherlock Holmes, » dit ma femme en riant. « Comment sais-tu tout ça ?» « Je vais te l'exposer, » dis-je, essayant, mais en vain, de lire avec le bord de l'ongle les traits trop fins de la gravure. « Cette bague étant faite pour un doigt de femme, le prénom doit être féminin. Or, il n'y a pas de prénom français de femme commençant par W. Il y en a beaucoup d'anglais, au contraire. « J'admets que c'est une Anglaise, » dit Lucie, « mais comment trouves-tu le fiancé aux Indes ?» Au temps d'avant-guerre, expliquai-je, quand j'étais chez mon patron à Paris, il nous arrivait quelquefois des clientes anglaises qui faisaient réparer leurs bagues. Le goût anglais et le goût français diffèrent beaucoup en bijouterie. Les Anglais aiment les belles pierres bien serties. Nous aussi, mais nous les disposons avec variété. Eux, au contraire, ils mettent trois pierres sur la même ligne, en quart de cercle, comme celle-ci. Mais j'ai une indication de plus dans le chaton du milieu. N'y vois-tu rien de particulier, Lucie ? J'y vois qu'il n'est pas à jour comme les deux autres, mais fermé en dessous par une petite plaque. Donc, il contenait une pierre qui n'a pas besoin d'être à jour, une pierre opaque, comme l'œil de chat qui vient des Indes et que les Anglaises affectionnent. Les Françaises ne l'aiment pas. Il m'a passé entre les mains, chez mon patron, des bagues de fiançailles offertes par l'officier ou le fonctionnaire anglais aux Indes. Plusieurs avaient un œil de chat entre deux brillants. Je crois qu'on attache un sens superstitieux à l'œil de chat. Je ne vois pas une autre pierre opaque qui fasse bien entre deux brillants. La turquoise est trop colorée. Il me semblait me retrouver dans mon ancien atelier et voir sur mon établi l'arc-en-ciel des pierres aux belles couleurs. « Sais-tu, dis-je à ma femme, nous allons mettre une annonce dans Le Matin. » À son petit claquement de langue, je devinai que ma femme était étonnée et pas d'accord avec moi. Son cher visage, que je n'ai jamais vu, apparaît à mon esprit dans des expressions de sentiment. Je le vois tantôt caressant, ou surpris, ou un peu grondeur, quand Lucie trouve son mari aveugle par trop déraisonnable, ce qu'il est souvent. En cette minute, le visage de ma femme était certainement désapprobateur. « Une annonce !» s'exclama-t-elle. « Pourquoi faire ? Mais ça va coûter très cher. Écoute, dis-je, j'économiserai ça, si tu veux, sur la cigarette et la pipe. Par exemple, te priver de ta bouffarde, ton seul plaisir? Ah, ça, jamais. Je ferai plutôt quelques journées au veau bleu. Mais explique au moins ton idée. Mon idée est vague, dis-je un peu embarrassé. Ces trois chatons contenaient des pierres de prix, il est permis de le supposer. Si la bague a été volée et que le voleur ait déchassé les pierres pour les vendre plus facilement, pourquoi a-t-il jeté le platine qui vaut 16 francs le gramme ? Comme ça, la petite Mariette a fait une bonne trouvaille. Au jugé, la bague pèse 5 grammes. Je l'enverrai à mon frère pour qu'il s'assure du poids et du métal. Car enfin, je dis platine, mais sans y voir, je ne suis pas certain. « N'oublie pas, Lucie, que mon frère seul doit être au courant. Plus tard, s'il y a des résultats, Madame Chaudron n'y perdra rien. » Des résultats ? Quels résultats ? Demanda ma femme. Et je devinais son petit sourire incrédule que je ne voyais pas, mais tous les sourires des femmes incrédules se ressemblent et j'ai vu bien des sourires de femmes avant la guerre. « Il me semble, déjà Lucie, que je tiens le bout d'un fil. Mais ce fil peut très bien aller nulle part. Cependant, permets-moi de le suivre puisque ça m'intéresse. D'y réfléchir, ça ne m'empêchera pas de bricoler. » J'entendis que Lucie enlevait la gaine de ma machine à écrire. Une machine qui m'a été donnée par les enfants de la Suisse romande et je suis heureux de dire ici qu'elle a été ma première consolation après la blessure. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?» dit Lucie. « Viens l'écrire, cette annonce. Je peux encore la mettre à la poste avant midi. » Car tout ce que je viens de raconter, depuis les pleurs de Mariette, s'était passé dans l'intervalle de 9 à 11 heures. Je me mis aussitôt à pianoter sur mon clavier et ma femme relut les lignes quand elles furent écrites. Voici le texte de l'annonce. « Administration du journal Le Matin, service d'annonce, Paris. » Veuillez insérer, 3 jours de suite, dans la colonne des petites correspondances, l'annonce suivante. Pour avoir des nouvelles de la bague à 3 chatons, WT 1888, on peut s'adresser à M. François Lecamp, 18 rue des Vernes, Garlat, Seine-et-Oise. Tu donnes notre adresse, fit Lucie. Tu ne ferais pas mieux de mettre poste récente? Je me suis dit que si je donne l'adresse, l'individu viendrait peut-être lui-même. Quel individu ? Soit le voleur, soit le propriétaire. Et après tout, peut-être bien que personne ne viendra. Pour éviter des longueurs, j'envoyais en même temps un mandat poste calculé d'après le taux des annonces. Le montant fit pousser un gros soupir à Lucie, comme je m'y attendais. Mais elle ne dit rien, ma bonne petite femme. Un moment après, comme elle partait pour la poste, je l'entendis qui se murmurait à elle-même. « Il faut bien lui passer une petite fantaisie à mon pauvre François. »